Ce matin, nous allons regarder Colossiens chapitre 1, versets 1 à 12. Et le titre de ce message, c'est les fondements de notre joie, notre salut sûr et notre sanctification certaine. Avant de regarder Colossiens chapitre 1, je voudrais lire quelques versets de Luc. Chapitre 10, c'est l'histoire où Jésus a envoyé ses 70 ouvriers. En Luc chapitre 10, versets 1 à 3, « Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya devant lui deux par deux, dans toutes les villes et dans tous les endroits où lui-même allait. » Il leur dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Allez-y, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. » Et on saute, si on saute jusqu'à verset 17, « Les 70 reviennent tout joyeux et dirent, « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. » Et nous voyons ici une vérité que la joie chrétienne vient du fait que nos noms sont inscrits dans le ciel. Et la joie chrétienne est fondée sur quelques vérités. L'un, c'est notre foi est fixée sur un Dieu suprême, toute puissance, souveraine. Et nous savons que tout ce qui arrive dans nos vies devrait passer à travers les mains de Dieu. Les joies, les souffrances, tout passe à travers les mains de Dieu. Il veille sur nos vies et nous savons que Dieu est pour nous. Il est bon et il nous aime. La deuxième vérité sur laquelle notre joie est fondée, c'est nous connaissons notre destin, la vie éternelle, une vie qui ne cessera jamais. Et nous qui avons placé notre foi en Jésus-Christ, nos noms sont inscrits dans le ciel, dans le livre de vie. Alors, malgré les circonstances de la vie présente, nous connaissons notre avenir. La promesse de Jésus-Christ est solide. Et donc, nous voyons la base de notre joie sur ces deux confiances, sur ces deux vérités. Et à cette petite église à Colosse, Paul rappelle ces vérités dans ses lettres adressées. Et ce matin, nous allons regarder ses prières pour l'église à Colosse. Et encore avant de regarder Colossiens, je voudrais juste lire quelques versets de la première apôtre Jean. Il avertit cette église, il a dit, petits enfants, pas l'église à Colosse, mais les églises que Jean écrit, il a dit, chapitre 2, verset 18, petits enfants, c'est la dernière heure. Vous avez appris que l'Antichrist vienne. Or, déjà maintenant, il y a plusieurs Antichrists. Par là, nous reconnaissons que c'est la dernière heure. Et souvent dans les Écritures, nous lisons les avertissements de cet Antichrist. Et Jésus et Jean, Jacques et Paul l'ont tous parlé. Et ici, Jean nous avertit que ce n'est pas une seule antichrist qui vient, mais il y a plusieurs qui sont déjà sur la terre à ce moment-là. Jésus a cité Daniel lorsqu'il a parlé de l'Antichrist, mais il y a aussi des Antichrists, plusieurs. Et Jésus a parlé de celui qui vient écraser le monde, mais tous ceux qui donnent de faux enseignements sont en vérité les Antichrists. Anti veut dire contre, ceux qui sont contre Jésus-Christ. Et cette lettre adressée à l'église de Colosse est un tel avertissement. Des antichrists sont venus apporter un faux enseignement. Et l'idée au centre de ce faux enseignement était « Votre salut est fragile. Vous pouvez le perdre. Le salut en Jésus-Christ n'est pas totalement suffisant. » Et il vous faut quelque chose de plus. Cette hérésie enseignait qu'une connaissance secrète supérieure à celle des Écritures, l'Écriture était nécessaire, et elle promettait une relation plus profonde, plus intime avec Dieu. Et le message de ces antichrists était « Le salut est bien ». C'est super que vous êtes sauvés. Ce n'est que la première étape. Ce n'est pas que l'entrée à la vie avec Dieu. Il faut des autres étapes aussi pour entrer dans l'intimité de Dieu, pour devenir plus spirituel. Et ces étapes ne se trouvent pas dans la parole de Dieu. Ils sont seulement pour les initiés, ceux qui sont illuminés par la vie spirituelle. Ces étapes ne se trouvent pas dans la Bible, elles sont inconnues, sauf par les gens choisis. Et il parlait des éléments de mysticisme, de philosophie, de règlement à suivre, de pénitence et de souffrance physique nécessaires pour entrer dans cette foi profonde. Et si nous examinons le message, nous trouvons que le salut n'est pas valorisé. Et même c'est souvent considéré comme insuffisant. C'est bien le salut, mais ça n'empêche pas Satan de vous attaquer. Ça ne vous empêche pas de subir, d'être bousculé, de perdre votre foi. C'est bien, mais il faut encore quelque chose de plus. Une deuxième bénédiction. Il faut briser les liens de Satan. Peut-être participer à des cérémonies spéciales pour être délivré des malédictions générationnelles. Un croyant doit apprendre les secrets pour recevoir certaines bénédictions ou rechercher la sainteté par les secrets mystiques. Ces faux enseignants disent qu'il manque toujours quelque chose, une bénédiction secrète, une vérité cachée, parce que le salut offert en Christ, ce n'est pas suffisant. Ces antichrists cherchaient à miner l'assurance de l'assemblée et ainsi remplacer la joie des chrétiennes par l'incertitude. Mais cette lettre aux Colossiens nous enseigne que Jésus-Christ est le Dieu de l'univers, le Créateur, et qu'il nous donne, il nous a donné toute bénédiction spirituelle par son salut. Et nous découvrons ici dans cette lettre la grandeur et l'immensité du véritable salut en Christ. Et lorsque nous apprenons cela, nous connaissons le message aux Colossiens. Et ces faux prophètes proclament que le salut en Christ n'est pas suffisant et vous pouvez le perdre. Souvent le premier point d'attaque est l'assurance du salut. Ils enseignent que le simple salut est trop fragile, il se perd facilement. C'est comme Jésus a te donné un œuf et vous devez le porter toute la vie sans le casser. Et c'est tellement fragile qu'au dernier moment de votre vie, si vous trébuchez et l'heure tombe sur terre, tout est foutu. C'est fragile. Il faut le sauvegarder par vos propres moyens. Et pourquoi ils enseignent cela? Parce que s'ils veulent vous faire douter de votre salut, si Jésus-Christ n'est pas suffisant, ils peuvent proposer des éléments supplémentaires pour prouver que vous êtes sauvés, pour assurer que vous êtes vraiment sauvés. Et nous voyons cela dans toutes les fausses religions de l'Église catholique jusqu'à aujourd'hui. Peut-être il faut donner l'argent pour assurer le salut ou assurer le salut d'un bien-aimé qui est mort. Souvent, ça passe par l'argent. Et dans cette lettre, l'apôtre Paul adresse ce faux enseignement et proclame Jésus-Christ comme le sauveur suffisant et le salut qu'il nous offre est complet et total. Et au moment de la rédaction de cette lettre, cette hérésie menaçait l'Église et c'était dans le contexte historique, Paul était en prison à Rome. Le fondateur et le pasteur de cette petite église, il s'appelle Epaphras. Et il était tellement alarmé par cette hérésie qu'il a fait le long voyage de plus de 1000 kilomètres de Colosse jusqu'à Rome pour parler avec Paul. Et l'apôtre Paul a écrit cette lettre pour avertir l'église et il contre-attaquait les éléments de l'hérésie qui le menaçaient. Et avec ce contexte, lisons maintenant Colossiens chapitre 1, versets 1 à 11. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et nous ne cessons de prier pour vous. Ayant été informés de votre foi en Christ et de votre amour pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous, et dans le monde entier, il porte des fruits, il s'accroît, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu, conformément à la vérité. D'après les instructions que vous avez reçues de Epaphras, notre bien-aimé compagnon de service, il est pour vous un fidèle ministre de Christ. Il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. C'est pour cela aussi que, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier de Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant dans la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérant et passion. Et Paul commence par assurer les croyants colossiens de ses prières. Et dans ses prières, il nous donne deux éléments clés. Il parle de notre salut sûr, qui est réservé au ciel, promis par l'Évangile. Et il parle aussi de notre sanctification certaine, une vie digne de Dieu, rendue possible par sa puissance glorieuse. Et le premier principe clé ici, notre salut sûr, nous voyons en versets 4 et 5. Paul a dit qu'il a été informé de leur foi en Jésus-Christ et de votre amour, de leur amour pour tous les saints, à cause de l'espérance réservée dans les cieux, que la parole de la vérité, la parole, l'évangile, vous a précédemment fait connaître. Ces croyantes ont été sauvées, transformées, nées de nouveau par leur foi en Jésus-Christ. Et nous voyons ici une foi sincère produit toujours le vrai salut. Une foi sincère produit toujours le vrai salut. Comme Jésus a dit en Jean chapitre 6, « Tout ce que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Une foi sincère qui vient auprès de Jésus-Christ, qui demande avec sincérité le salut, n'est jamais refusé. Et ici, au verset 4, Paul donne les raisons pour lesquelles il remercie Dieu. Il a dit, à cause de leur foi en Christ et à cause de leur amour pour les saints. Et nous voyons ces deux choses ici sont les preuves du vrai salut. Elles montrent l'évidence d'un vrai chrétien, quelqu'un dont la vie a été transformée par Jésus-Christ. En l'épître de 1 Jean, Jean nous donne les évidences, les preuves d'un vrai salut. Et nous lisons chapitre 3, verset 23, « Et voici quel est son commandement, c'est que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres. » Ce sont les deux commandements les plus grands, n'est-ce pas? Lorsque quelqu'un a posé la question à Jésus, « Quel est le plus grand commandement? » Il a dit, « Croire en Dieu, aimer votre Seigneur avec tout votre être, cœur, esprit, et aimer votre prochain comme vous-même. » Ici, nous voyons les deux plus grands commandements sont les deux grandes évidences du vrai salut. Quelqu'un qui aime Jésus-Christ, qui a mis sa foi en Jésus-Christ et qui a un amour pour les autres croyants. Et si vous constatez que ces deux vérités caractérisent votre vie, vous avez l'évidence du vrai salut. Et Paul remercie donc Dieu pour la vie éternelle qu'ils ont reçue. Et ici, il s'agit de la sécurité de leur salut, la sécurité de la vie éternelle. C'est leur espérance et Paul leur donne deux éléments de cette espérance au verset 5. D'abord, il a dit, leur espérance est où? C'est réservé aux cieux, dans les cieux. Elle est bien protégée. Leur espérance a été placée dans la banque la plus sûre de l'univers, dans la présence de Dieu. Qui peut voler quelque chose de la présence de Dieu? Pierre nous parle de cela aussi en 1 Pierre chapitre 1. Il a dit, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a fait renaître à une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, afin que nous obtenions un héritage impérissable, sans tache, sans flétrissure, réservé dans les cieux pour nous, qui êtes protégés par la puissance de Dieu, par la foi en vue d'un salut prêt à être révélé dans les derniers temps. » Et nous voyons le ciel, c'est la demeure de Dieu. Leur espérance, la vie éternelle, est gardée dans la présence de Dieu. Et nous trouvons ici une promesse assez chère. Notre salut, notre vie éternelle et tout ce qu'elle contient est assuré et protégé par Dieu. Et deuxième, nous voyons, leur espérance est promise par l'Évangile. Paul a dit, la parole de la vérité, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître l'espérance. Et cela indique la certitude de leur avenir telle qu'elle est établie par la volonté de Dieu. Et lorsque la Bible parle de l'espérance, ce n'est jamais quelque chose qu'on espère qui va arriver. J'espère demain je vais gagner le loto et devenir millionnaire. Non. Dans la Bible, l'espérance dit une promesse de Dieu qui n'est pas encore réalisée, mais c'est sûr et certain. Nous voyons, il ne s'agit jamais de quelque chose d'incertain, mais quelque chose sûr qui n'est pas encore réalisé. Et Paul leur dit qu'il loue Dieu parce que leur destinée est sûre et certaine, gardée par la volonté de Dieu. Et dans le contexte historique, cette église, comme toutes les églises de cette époque, subissait des graves persécutions. Ils vivaient dans des temps incertains, mais Paul remercie Dieu et les encourage en leur rappelant que leur avenir est sûr et certain. Leur salut est assuré. Et Paul poursuit en parlant de l'Évangile qui s'est répandu partout, partout dans l'Empire romain et encore plus loin, qu'il porte du fruit. Et on dit, c'est un grand encouragement pour une église, parce que cette église, c'était une église implantée de l'église à Éphèse. Éphèse est là, et on a Colosse, Laodicée et Hierapolis, trois petites églises qui étaient fondées par Epaphras. Paul n'a jamais visité. Aujourd'hui, Colosse n'est pas encore être excavé. C'est un mot en français, excavé. C'était juste une colline. Et cette petite église, dans un sens, au milieu de nulle part, Paul leur dit, vous faites partie d'un mouvement universel. L'évangile que vous avez cru, ça touche partout. Ça, il y a des milliers, des millions de croyants partout dans le monde. Et quel encouragement pour une petite église. Elle n'est pas seule. Ce qui s'est passé à Colosse se répète partout. Et l'évangile qu'ils avaient entendu et cru est universel. Et le deuxième principe clé est notre sanctification certaine. Que Dieu va nous transformer selon l'image de Jésus-Christ. C'est ça la sanctification. On devient de plus en plus selon l'image de Jésus-Christ. En versets 9 à 11, il a dit, « C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. » portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Et Paul a dit qu'il prie pour qu'il soit rempli de la connaissance de Dieu et de la sagesse et la compréhension spirituel. Et nous connaissons la volonté de Dieu par la parole de Dieu, par la Bible. La sagesse spirituelle nous dit comment le mettre en pratique dans la vie quotidienne. Et la compréhension spirituelle s'est définie comme la faculté de discernement, de discerner, de comparer la vérité de la parole de Dieu avec ce que le monde nous dit, de discerner l'erreur et la vérité, de distinguer, de penser comme Dieu, de savoir distinguer le vrai du faux. Et une telle pensée conduit à la sanctification afin que vous marchiez d'une manière digne. Et ça, c'est la vie quotidienne la vie d'un chrétien. Il s'agit de ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Et Paul explique c'est quoi exactement une vie digne de Dieu. Il a dit c'est une vie qui plaît à Dieu, qui porte du fruit, qui croit dans la connaissance de Dieu, qui devient forte, patiente et inébranlable, et qui est pleine de gratitude envers Dieu. Et il se peut qu'en examinant ces qualités, il se peut que vous vous dites, mais j'ai l'impression que ma vie chrétienne est un peu faible dans ces domaines. Alors, comment puis-je être certain, comment puis-je savoir que ma sanctification est certaine? Parce que lorsque je me regarde, je vois qu'il y a beaucoup de fautes. Je ne suis pas encore même proche à l'image de Jésus-Christ. Et regardez ce que la Bible dit en verset 11. Il a dit, fortifié à tous égards par mes propres efforts. Non. N'est-ce pas? Ah, j'ai mal copié. Non, fortifié toujours par sa puissance glorieuse. C'est Jésus-Christ qui nous tiendra. Il ne nous laisse pas tomber. C'est écrit que si nous venons à Jésus-Christ avec une foi sincère et que nous recevons ainsi le vrai salut, nous portons du fruit et devenons forts selon sa puissance glorieuse. Ce n'est pas simplement par notre propre force et nos propres efforts que nous grandissons dans la sanctification. C'est accompli par la puissance de Dieu. Et nous voyons notre salut commence avec Dieu et s'est perfectionné par Dieu. Ce n'est pas à dire que nous ne péchons plus, que nous ne tombons pas dans le péché, mais au fur et à mesure nos vies, dès le salut jusqu'à la fin de nos vies, nous devenons de plus en plus semblables. Peut-être quelques-uns seront beaucoup plus selon l'image de Jésus que les autres. Je doute que le voleur sur la croix à côté de Jésus avait beaucoup de chance de devenir plus selon l'image de Dieu, de Jésus-Christ. Mais c'est Dieu qui va nous transformer selon son image. Et voici quelques autres passages qu'il enseigne. En 1 Corinthiens chapitre 1, Dieu vous affirmera jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui par qui vous avez été appelés à la communion avec son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Encore, Dieu vous affirmera jusqu'à la fin. En Philippiens chapitre 1, car j'ai l'assurance que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre, le salut, l'achèvera jusqu'au jour de Jésus-Christ. C'est Dieu qui va l'achever. En Romains chapitre 8, verset 29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. C'est Dieu qui nous confirme, c'est Dieu qui a commencé notre salut, et c'est lui qui le rendra parfait au jour de Jésus-Christ. Et par le salut, Dieu a déterminé que nous serons transformés selon l'image de Jésus-Christ. Notre sanctification est fondée non sur nos propres efforts, nos propres forces, mais sur la force et la fidélité de Dieu. Et nous voyons ici que notre salut est selon la promesse et selon la volonté de Dieu. Alors, ce que Paul fait ici, c'est un modèle de prière. Il a, il a vu la promesse de Dieu pour l'Église, pour les croyants, et sa prière est « Seigneur, voici ta promesse, faites-le. » C'est une prière pure. Il n'y a pas d'égoïsme, pas de... Ce n'est pas que pour quelque chose éphémère, mais c'est Paul a saisi la promesse. Seigneur, tu nous as promis la vie éternelle. Et tu nous as promis de nous transformer selon l'image de Jésus-Christ. Faites-le. Accomplis ta promesse. Et Paul proclame à cette église qu'en dépit des persécutions, en dépit des incertitudes de leur vie, leur salut et leur sanctification sont sûres et certaines. Le salut que Dieu leur a donné est conservé, gardé, sûr et certain. La transformation que Dieu a commencée dans leur vie, leur sanctification se poursuivra, assurée par la puissance de Dieu. Comme les croyants à Colosse, l'assurance et la sécurité de notre salut reposent sur la fidélité de Jésus-Christ. Oui, nous devons persévérer dans la foi. Notre sanctification est une collaboration avec Dieu. Oui, c'est aussi, nous travaillons ensemble avec lui. Ce n'est pas simplement de croiser les mains et rester dans un coin et dire, OK, Seigneur, fais ton travail. C'est une collaboration avec le Saint-Esprit. Mais même cela est gardé par Christ. Et si notre foi est petite, même aussi petite qu'un grain de sénévé, elle est fixée sur un Dieu tout-puissant. Au début de sa lettre à cette église, Paul exprime sa prière pour l'église colossienne. Il remercie Dieu pour leur foi, leur amour, leur espérance. Et ces trois mots, foi, espérance et amour, vous semblent familiers? C'est se trouve aussi en Corinthiens chapitre 13, n'est-ce pas? Paul ne fait rien de nouveau. Les deux caractéristiques d'un vrai chrétien sont les mêmes qu'on trouve en Deutéronome. Aimez Dieu de tout votre cœur et aimez votre prochain. Et souvent, le premier point d'attaque des hérésies est l'assurance du salut. Car s'ils peuvent nous faire douter de notre salut, alors ils peuvent proposer des éléments supplémentaires pour prouver que nous ne sommes pas vraiment sauvés. Et voici pourquoi Paul commence sa contre-attaque en assurant les croyants de leur salut. Nous voyons cela aussi dans les petites stands des Bibles mis dans les stations de métro, partout par les témoins de Jéhovah. Leur message est toujours le même. Oui, les églises catholiques, protestantes, évangéliques, tous, ce sont les gens de bien. Mais il y a quelque chose qu'ils ne connaissent pas, un secret. C'était révélé en américain. Vous savez, les témoins de Jéhovah sont une religion américaine. On dit, Dieu a attendu 2000 ans avant de révéler la vérité de Jésus-Christ en américain. On dit. Mais c'est toujours cette idée, il y a quelque chose d'inconnu, sauf dans c'est quoi le temple du royaume? C'est quoi le nom de ces... Le
tour de garde.
Oui, le tour de garde, c'est le magazine, mais les églises, c'est un...
Salle du royaume.
Salle du royaume, oui. C'est quelque chose qu'on ne dit pas, sauf dans la salle du royaume. Et si on continue cette lettre, on voit où Paul attaque cette idée, non tout est dans la parole, ces choses ne contribuent à rien. Mais ici, nous voyons aussi un modèle de prière. Et parfois, dans la Bible, nous trouvons ici et là les modèles de prière. On connaît le Notre Père, que Jésus a cité, a enseigné à ses disciples. Les psaumes sont aussi, en grand nombre, les prières. Nous avons les prières de Jésus-Christ, surtout celles à la fin de Jean, lorsque Jésus a prié pour ses disciples. Et ici, nous avons un modèle de la manière dont Paul a prié pour cette Église au milieu des épreuves et des persécutions. Il n'a pas prié pour leur délivrance de la persécution, mais pour leur persévérance, avec des actions de grâce pour leur salut assuré, avec une prière pour leur sanctification certaine. Et ce sont les choses spirituelles et les choses éternelles. Souvent, nous concentrons nos prières sur les choses éphémères. Je suis enrhumé, je vous demande de prier pour que Dieu me guérisse de ce rhume. Et on dit, oui, d'habitude, Dieu le fait en une semaine ou sept jours. Mais ici, Paul prie pour les choses spirituelles, éternelles. Et lorsque nous prions pour l'Église persécutée dans le monde, nous devrions également nous concentrer sur ces points. C'est aussi ainsi que nous devrions prier pour notre propre Église, que nous grandissons dans la connaissance de la volonté de Dieu. Remercions Dieu pour la certitude de notre salut et prions pour notre sanctification constante et continue, afin que nous marchions d'une manière digne du Seigneur, avec l'assurance que Dieu l'accomplira. Et mari et femme, voici comment prier pour votre conjoint. Et parents, voici comment prier pour vos enfants, pour leur salut et pour qu'ils marchent d'une manière digne du Seigneur. Et de même, voici comment vous devriez prier pour vous-même. Remerciez le Seigneur pour votre salut et priez que vous marchiez dans une manière digne, que vous devenez de plus en plus selon l'image de Jésus-Christ. Nous remercions Dieu pour notre salut assuré et nous prions avec certitude pour que par sa force glorieuse, nous menions une vie digne du Seigneur. Que Dieu bénisse l'enseignement de sa parole. Amen.